L'émission L'écran radiophonique vous présente un scénario original de Jean-Pierre Junier. Erebos. Mise en scène, production, Jean-Pierre Junier. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur.
Thank you.
qui ne met rien et qui en plus mange comme 10. Sans compter que la nourriture se fait rare. François lui dit, eh bien, dis-lui de partir, la grand-mère ou ses épaules. Adrien en a marre de rester toujours enfermé là. Il a repris des forces et veut s'en aller. Durant le repas qui se passe comme d'habitude, il dit « Je veux m'en aller !» La grand-mère lui dit « Non, il faut que tu attendes le retour de mon fils. » Adrien, furieux, mais n'ose pas partir à cause des chiens. Pendant ce temps, Robert essaye de se renseigner pour savoir qui est cette famille. À Paris, il va à la poste, sur Internet, voir où il habite et voit que c'est à Versailles. Il a pris cette adresse au hasard parce qu'il ne sait pas qu'il y a plusieurs adresses au nom de Forvigny. Malheureusement, l'adresse qu'il a prise, l'adresse de l'oncle d'Adrien. Arrivé à Versailles, il trouve la maison d'Albert et voit qu'il n'y a pas à côté de la maison un café. C'est un café populaire qui fait aussi tabac. Il est rentré dans le café, il y a un peu de monde, surtout des vieux. Il s'assoit à une table où il n'y a personne. Le cafetier, un homme de 50 ans, cheveux châtains, maigre, pas très grand, habillé d'un pantalon marine et chemise blanche, va à lui. Il lui demande « Vous désirez, monsieur ?» Albert lui dit « Une bière, s'il vous plaît. » Le cafetier va lui chercher. Lorsqu'il revient, Robert lui demande « Est-ce que vous connaissez la famille ?» Forvigny, le cafetier lui dit, oui, un peu, et pas très bien comme tout le monde, seulement de nom. Robert lui dit, j'aimerais avoir des informations sur eux. Il lui dit, je ne peux rien vous dire, monsieur. Et puis, vous demandez de ces informations, mais qui êtes-vous? Robert lui dit, rien, mais simplement des informations comme ça. Le cafetier se retire. Assis, un peu plus loin, il y a le chauffeur de Jean qui a entendu la conversation. Il va vers Robert et lui demande « J'ai entendu que vous cherchiez des informations sur les Forvigny. » Robert lui dit « Oui, c'est ça. » Le chauffeur lui dit « Je suis chauffeur dans cette famille. » Il s'assoit en face de Robert. Il demande à Robert « Pourquoi voulez-vous avoir des informations sur cette famille ?» Robert lui dit « J'ai des recherches sur des gens qui sont très fortunés. » Le chauffeur lui dit, « Pourquoi est-ce que ça vous intéresse, cette famille ?» Robert lui dit, « Parce qu'il paraît, peut-être, quelque chose que j'aurais à vendre, qui leur est très précieux. » Le chauffeur lui demande, « Et quoi ?» Robert lui dit, « Je sais pas, quelque chose qu'ils auraient perdu. » Le chauffeur sourit, « Vous êtes bien naïf de me raconter tout ça. Je pourrais vous dénoncer. » Robert se rend compte qu'il a fait une grosse bêtise. Oui, qu'il a parlé comme ça, que l'on risque de le faire chanter. Alors il sourit et dit, « Je parlais comme ça, c'est tout, parce que j'ai vu l'annonce dans le journal et je me demandais qui était cette famille. Rien de plus, bien entendu. » Il n'a rien à proposer à cette famille. Ne croyez pas que je sois quelqu'un de malhonnête. Non, je plaisantais, c'est tout. Le chauffeur sourit. Bien sûr, il faut bien plaisanter de temps en temps. Et il se retire en riant. Retourne à sa place. Robert gêné, car il sait qu'il a fait une terrible bêtise finissant vers « et sœur ». Il entre dans sa voiture. La voiture file de plus en plus vite, à une vitesse folle. Sans faire attention, il est trop ému par sa bévue. La voiture a raté un virage, s'est écrasée contre un arbre. Le choc a été très fort et la carrosserie est en accordéon. Une voiture s'est arrêtée, sort de la voiture le chauffeur. Il la court vers la voiture accidentée, se penche, voit que c'est Robert et qu'il ne bouge plus. Le corps enfoncé dans la carrosserie. Il touche le pouls, lui ouvre les yeux, il est bien mort. Alors il regarde sa poche revolver et prend son portefeuille. Malheureusement, les papiers du portefeuille ont été noyés par le sang. C'est inutilisable, on ne peut pas savoir qui est cette personne. Alors, vite, il prend sa voiture. Et s'en retourne. Une heure plus tard, il raconte à Albert dans son bureau chez lui. Il lui dit, ça me semblait louche. J'ai pris son numéro d'immatriculation. Je suis sûr. Qui sait où est le petit, enfin qu'il savait où était le petit, enfin, puisqu'il est mort maintenant. Albert se demande ce qu'il va faire. Ne rien faire ou chercher à savoir où est le petit. Il dit à sa femme ce qui lui est arrivé. Idiot, il faut savoir où est le petit. Il doit être séquestré pour une rançon. Et si la vieille le reprend, adieu la fortune. Il faut que nous puissions le rattraper avant qu'elle le reprenne et l'éliminer. Adrien en a marre d'être enfermé. Il aimerait pouvoir partir. Surtout qu'il y a la voiture qui est garée dans la cour de la ferme. C'est la voiture de la grand-mère. Alors, tentons le tout pour le tout.
Il sort de sa chambre sans faire de bruit. Descend les escaliers.
Et là, il se trouve dans la cour. Les chiens ne font pas attention à lui. Vite, il court à la voiture. Mais, où il met la main sur la portière, les chiens courent et aboient après lui. La grand-mère sort de la maison et lui dit « Ça ne sert à rien ce que tu fais, j'ai les clés. » Et puis le portail est fermé. Adrien furieux lui demande « Pourquoi est-ce que je ne peux pas faire ce que je veux ?» La grand-mère hausse ses épaules et lui dit « Va à ta chambre !» Adrien furieux retourne à sa chambre. Lorsqu'il revoit Françoise, il crie sa colère. Il veut s'en aller. Françoise a un faible pour lui. Elle veut l'aider. Alors, elle cherche les clés de la voiture. Regarde dans les tiroirs, le buffet, etc. La grand-mère la voit tourner. Elle lui demande « Qu'est-ce que tu as à chercher comme ça, à tourner comme ça ?» Elle ne lui répond pas. En surveillant sa grand-mère, elle voit la grand-mère mettre les clés dans un vase. Alors, lorsqu'elle le peut, elle prend les clés de la voiture. Dans la nuit, lorsque la grand-mère dort et qu'elle a fermé les chiens, Françoise prend la clé du portail qui se trouve vers la porte d'entrée, puis monte à la chambre d'Adrien.
Elle frappe à la porte et entre. Elle voit qu'il dort. Le secoue et lui dit « Adrien, réveille-toi vite !» Adrien se réveille. Il est surpris de la voir. Elle lui dit « Tu peux t'en aller si tu veux. J'ai les clés de la voiture et ouvert le portail. Les chiens sont enfermés. Moi aussi, je veux m'en aller. Je pars avec toi. J'en ai assez de cette vie. Je veux aller avec toi. » Adrien, mal réveillé, ne sachant pas, ne comprenant pas, malgré tout, se lève et s'habille en vitesse. Une fois qu'il est habillé, il sort de la chambre. Et de la maison. Mais une fois sortis, ils entendent « Arrêtez ou je tire !» Se retournent et voient qu'est sorti de la maison en chemise de nuit la grand-mère avec un fusil et leur dit « J'ai entendu du bruit. Je suis sorti et j'ai compris. Allez, entrez !» Furieux, ils vont vers la vieille. Adrien lui crie « Pourquoi est-ce que tu m'empêches de faire ce que je veux ? Je veux partir en voiture. Je ne veux pas qu'on m'empêche de faire ce que je veux. » François lui dit « Il a raison. Il a le droit de faire ce qu'il veut. » Ne fait pas partie de la famille et nous n'avons pas le droit de l'enfermer. Il n'est pas prisonnier. Adrien lui dit furieux, « Pourquoi est-ce que vous me tenez prisonnier ?» La vieille lui dit, « Vous allez rentrer tous les deux. » Françoise lui dit furieuse, « Je ne veux pas. Tu n'oseras pas tuer ta petite fille
La vieille furieuse et enivrée parce que représente Adrien n'a plus de sentiment pour personne. Alors, elle vise et tire. Malheureusement, aucune détonation. Le fusil n'a pas de balle. Adrien fonce sur elle et lui attrape le fusil. Et la tue à coups de crosse. Françoise ne peut rien faire et était surprise. Et puis le geste de la grand-mère qui l'a visée l'a horrifiée. Les chiens n'ont pu faire qu'aboyer parce qu'ils étaient enfermés. Adrien a du sang de partout, sur ses habits, sur lui. La grand-mère a la tête fracassée. Françoise lui dit : c'est pas ta faute, c'est elle qui a voulu nous tuer. Allons, partons. Je vais ouvrir le portail. Elle va ouvrir le portail. Et courent vers la voiture. Ils entrent tous les deux dans la voiture et Adrien met la voiture en route. La voiture file. Le docteur Ambert est fatigué. Il se dit qu'il passe son temps à constater la maladie sans la soigner. Les chercheurs ont des difficultés à trouver un médicament car ça semble être une nouvelle peste et que l'on n'arrive pas à maîtriser. C'est une peste spéciale plus robuste que l'autre. Il en parle à Elisabeth. C'est peut-être une peste qui a été créé par l'homme. Malheureusement, ce sont les pauvres les plus touchés. On met en quarantaine les familles qui ont un de ses membres ou plusieurs de ses membres qui ont cette maladie. Il y a beaucoup de morts. Les personnes que l'on met en quarantaine sont évacuées de leur logement et on interdit qu'ils soient occupés. La maladie commence par une forte fièvre, puis il y a des tremblements, des ganglions qui apparaissent, la peau s'assombrit à certains endroits. Les personnes maigrissent de plus en plus, ont des spasmes et meurent rapidement. Malheureusement, on ne peut rien faire que de les empêcher de trop souffrir. Tous les établissements sont remplis. Il y a tellement de malades qu'on ne sait plus où les mettre. Chaque fois qu'une personne est décédée, on l'incinère pour éviter l'infection. Les incinérateurs marchent 24 heures sur 24. L'Europe et d'autres parties du monde sont quasiment en quarantaine. Les avions de transport, les produits qui proviennent d'autres continents sont interdits. C'est pour éviter les infections. Ce qui fait que leur ravitaillement et les affaires sont stoppés. La Russie, la Turquie, la Suisse et tous les pays du continent sont ceux qui font... Même ceux qui ne font pas partie de l'Union européenne sont atteints. Tout le monde aimerait fuir, mais comment faire ? On se sent perdu, Les personnes fortunées aimeraient pouvoir partir. Albert dit à sa mère de partir. Elle lui dit, « Non, je ne peux pas. Et puis, il y a le petit. » Il lui dit furieux, « Il est mort. » Elle lui dit, « Non, il n'est pas mort. » Il lui dit furieux, « Je sais pourquoi tu es tellement attaché au petit. L'accident de ses parents. Tu vois ce que je veux dire? C'est ta faute si le petit est débile. » Elle lui crie, « Tais-toi, c'est faux. » Il lui dit, « Moi, je sais que tu t'es trompé, ou plutôt le destin n'a pas voulu que ce soit comme tu voulais, que ce soit lui. Ils ont pris la voiture qui était destinée à ton mari. » Elle lui demande, « Qui t'a dit ça ?» Il lui dit, « Chauffeur, avant qu'il ne meure. » Elle lui répond, « C'était un menteur, et puis il est mort. » Il lui dit, comme ça, il ne peut pas dire la vérité. Et il la quitte, furieux. Jeanne, la grand-mère, pleure son petit-fils. Elle l'aime vraiment. Elle pense que c'est son fils qui l'a enlevé. Lorsque son fils vient la voir, elle lui fait dire par le domestique qu'elle ne veut plus le recevoir. Le domestique dit à Albert, « Je suis désolé, monsieur. Madame ne veut plus vous recevoir. » Alors il s'en retourne, furieux. Lorsqu'il rentre chez lui, il retrouve sa femme au salon. Tu te rends compte que ma femme, que ma mère, ne veut plus me recevoir? Elle lui demande, « Et pourquoi ?» Il lui dit, « Je ne sais pas, encore une de ses lubies. » Elle réfléchit, lui dit, « C'est sans doute à cause d'Adrien. Il pense que tu es responsable de son départ. » Il lui dit, « Oh, et puis, si elle ne veut plus me revoir, ça n'a pas d'importance. » Le gouvernement fait faire des recherches pour savoir ce que c'est que cette peste que l'on n'arrive pas à soigner. Quelles sont ses origines? Les chercheurs, médecins, industriels, industrie pharmaceutique ont reçu l'ordre de faire des recherches rapidement et le gouvernement a prévu un budget très important pour ça. Le docteur Ambert a été prévenu, comme tous les médecins, que l'on faisait des recherches pour savoir ce que c'était que cette peste. Rambert, après avoir passé une journée éprouvante à cause de la chaleur et à ouvrir des poches de pu des malades en se disant que cela ne peut servir qu'à soulager un peu mais pas à les guérir. Donc, après cette journée pénible, il quitte son travail. « quitte son travail avec son infirmière Elisabeth, qui est elle aussi épuisée. Après cette journée épuisante, il dit à Elisabeth : Tenez, je vous invite à dîner chez moi ce soir. Nous avons besoin tous les deux d'un peu de tranquillité. Ça nous fera du bien. Elle est heureuse et accepte. Elle va chez lui pour la première fois. Elle regarde son appartement. Elle lui dit : Vous avez un très bel appartement, mais il vous manque quelque chose, une femme. Il lui demande : Pourquoi ? Elle lui dit : Pour que vous soyez moins seul et pour entretenir votre appartement. Il lui dit : Je suis bien comme ça. Et il l'amène à la salle à manger. Soyez-vous. Et lui demande : Vous désirez boire quelque chose ? Elle lui dit : Oui, un petit remontant, s'il vous plaît. Il lui demande : Un scotch, whisky ? Elle lui répond : Un scotch pour une fois. Il va chercher la boisson dans un coin bar. Et revient. Puis fait le service. Tenez. Merci. Puis il lui dit : Bon, eh bien, je vais préparer le repas. Ce sera très simple étant donné que nous n'avons pas grand-chose. Elle lui dit : Je peux vous aider ? Il répond : Si vous voulez. Une fois qu'elle ait bu son verre, ils vont à la cuisine préparer le repas. Il fait éplucher les pommes de terre et des carottes. Il va préparer une soupe. Une fois que le repas est prêt, une soupe, un gigot et du fromage. Ils mangent tous les deux l'un en face de l'autre dans la salle à manger. Elle est heureuse d'être avec lui parce qu'elle l'aime en cachette, mais se dit aussi qu'elle ne se voit pas vivre constamment avec un homme. Elle préfère travailler avec lui, mais pas vivre avec lui. Ils parlent tous les deux des difficultés de la vie, de la peste et de la chaleur qui n'en finit pas. Il lui dit : Tout ça s'arrangera un jour ou l'autre. Puis il lui parle des malades qu'ils ont vus. Après qu'ils aient mangé, de bon appétit et bien parlé, ils sont allés au salon. Rambert lui a fait écouter un peu de musique en buvant. Ensuite, à 22h30, elle a voulu le quitter parce qu'il faisait déjà très tard. Il lui dit : Au revoir et à demain. Une fois qu'elle est partie, il se dit qu'elle serait surprise de savoir qui il est, quelle détestable chose que d'aimer ça. Comme chaque matin, il fait sa marche très tôt dans la ville chaude, poussiéreuse et déserte. Les rues sont envahies d'une poussière grise et l'air est étouffant. En se promenant, il pense toujours au jeune garçon et se demande ce qu'il est devenu. Aussi, il se demande si ce besoin est compatible avec son métier. Adrien est heureux. Il roule, roule. Françoise est assise près de lui et heureuse aussi et se demande ce qu'ils vont devenir. La vieille va être découverte et on va les rechercher. Elle lui dit, qu'allons-nous devenir? La vieille va sûrement être bientôt découverte. On va nous rechercher. Il lui répond, avec la voiture, ça n'a aucune importance. On va où on veut. Personne ne pourra nous rattraper. Adrien, lui, en conduisant, est tellement heureux qu'il ne pense à rien d'autre. Rien ne compte que de conduire cette voiture. Il ne pense même plus à la jeune fille qui est près de lui. Il roule. Oui, il roule. Mais il roule dans un monde désertique, sans eau ni nature, où tout semble mort. Mort. Ils commencent tous deux à avoir faim et soif. Le vent chaud, malgré qu'ils soient dans la voiture. Il roule, sèche la bouche. Il passe dans des villages qui semblent morts. Tout d'un coup, au bout d'un moment, la voiture s'est arrêtée. Adrien voit, furieux, qu'il n'y a plus d'essence. Alors il devient furieux, se met à crier, cogner avec ses poings sur le tableau de bord. Françoise lui dit, ça sert à rien, faut aller chercher de l'essence, tout simplement. Alors ils sortent de voiture. Il voit au loin un bourg, c'est-à-dire quelques maisons, et décide d'y aller à pied. Une fois arrivé vers les maisons, il voit que tout est mort. Pas de station d'essence, rien. Pas le moindre bruit, personne. Comme la nuit est là, il décide de chercher un endroit pour dormir. Il voit une grange dont la porte est ouverte. Ils y entrent. La grange et pleine de foin. Il s'allonge enlacé dans le foin. Ils s'endorment tous les deux épuisés. Le rayon du soleil les réveille. Elle lui donne un baiser sur la joue. Il s'écarte. Elle lui dit « Bonjour ». « Tu as bien dormi ?» Il lui répond « Oui ». Il bâille et lui dit « J'ai faim et soif ». Et lui dit « Faut que nous allions chercher de quoi manger et boire. Voilà tout. » Ils se lèvent tous deux un peu courbaturés. se frottent pour enlever la paille sur les vêtements et sortent de la grange. Le bourg est toujours aussi mort, aucun bruit, même pas d'animaux. Ils voient une petite fontaine où se déverse un mince filet d'eau. Alors se penche pour boire l'eau qui n'est même pas fraîche. Puis il cherche quelque chose à manger, essaye d'entrer dans les maisons, mais les maisons sont fermées à clé. Alors se contente de manger des murs. Adrien furieux, il boude parce qu'il n'y a rien à manger, mais surtout parce qu'il ne peut pas se servir de sa voiture. Elle est toute heureuse parce qu'elle va pouvoir passer quelque temps seule avec lui. Elle lui dit, on peut rester quelque temps ici, comme ça. Il est furieux, lui dit, et ma voiture, on peut la prendre? Elle lui dit, personne ne peut prendre ta voiture. Elle n'a pas d'essence. Et puis tu vois bien qu'il n'y a personne. Allez, ne fais pas la tête, le coin est abandonné. Trouvons une maison et nous pourrons vivre comme ça. Il ne dit rien. Ce qui compte pour lui, c'est faire des kilomètres et des kilomètres en voiture, sans s'arrêter. En fait, de Françoise, il n'en a rien à faire pour le moment. Ça allait lorsqu'il avait la voiture, mais maintenant, Françoise... En poussant une porte des maisons, a essayé de trouver une maison où ils peuvent rentrer. Au bourg, il y a une maison qui est délabrée, mais plus délabrée que les autres et qui a dû être abandonnée depuis très longtemps. Elle a un étage et est très petite, ce n'est pas une ferme. Françoise pousse la porte et peut entrer. Elle dit à Adrien, entre, viens. Entre Adrien de mauvaise grâce. Il y fait sombre dans la maison. Le sol, c'est de la terre. Les murs sont du crépi qui s'en va. Il y a quelques meubles délabrés. Ça sent l'humidité et la poussière. Il y a plein de toiles d'araignée. Adrien est dégoûté. Françoise est heureuse. Elle lui donne un baiser sur la joue. Elle lui dit, « Nous serons très bien ici. » Adrien ouvre ses épaules. Lui, ça le dégoûte. Il n'a pas l'habitude des endroits comme ça. Elle le voit triste et lui dit, « Ne t'en fais pas. Je vais tout nettoyer et tu verras, ce sera très bien. » Pour lui, ce qui compte, c'est reprendre la route. Il se moque de Françoise, ne commence qu'à partir. Mais malheureusement, il n'a pas d'essence. Et puis, il fait tellement chaud, tellement chaud. Comme elle voit qu'il est déçu et dégoûté, elle sait qu'il ne fera rien pour l'aider. Alors elle lui dit, « Va t'asseoir devant la maison. Moi, je vais commencer à nettoyer. » C'est ce qu'il fait de mauvaise grâce. Elle cherche un balai, en trouve un dans le placard et commence à nettoyer. C'est difficile, il y a beaucoup de poussière, de toiles d'araignée à enlever. Elle est heureuse, malgré que ce soit pénible et sale de faire ce travail, parce qu'elle se dit qu'elle le fait pour elle et Adrien, comme s'ils étaient mariés. Ça ne la gêne pas du tout qu'Adrien ne fasse rien. Lui, Adrien, attend en silence. En réalité, ça ne l'intéresse pas de vivre ici. En fin de journée, épuisée par la chaleur et le travail, elle a enfin à peu près fini. Elle dit à Adrien de venir. Adrien entre de mauvaise grâce. Elle lui montre tout ce qu'elle a fait et que tout est propre. Elle est heureuse de le lui montrer. Lui ne dit rien. Elle lui demande, ça va maintenant? Il lui répond pour lui faire plaisir, oui. Elle lui dit, tu verras, nous serons très bien ici. toujours le problème de manger. Pour ce qui est de l'eau, il y a la fontaine, mais quoi en manger? Il cherche dans le bourg et ne trouve rien. Adrien lui dit, il n'y a même pas un magasin ici. Ils ont réussi à passer par une fenêtre ouverte dans une maison, en fouillant bien, à trouver quelques boîtes de conserve et du fromage. Il y en a pour de nombreux jours. Ils emportent tout ça à leur maison. Les jours passent ainsi. Comme il fait très chaud, la journée ils dorment. Elle est heureuse et joue à la femme mariée. Lui est triste. Il aimerait c'est pouvoir partir d'ici, rouler, rouler. Le soir, ils sont assis à terre devant la maison. Ils essayent de prendre le frais avant d'aller se coucher. Elle le voit toujours triste. Elle lui demande, « Tu n'es pas heureux d'être près de moi ?» Il répond, « Oui, mais j'aime mieux rouler. » Elle lui dit tristement, « Tu penses qu'à ta voiture ?» Il lui dit, « Et alors ? Tu ne peux pas m'empêcher d'aimer les voitures ?» Elle lui dit, « Non, bien sûr. » Dans la maison, ils ont trouvé un lit à deux places et dorment ensemble. Et se plaquent contre lui. Au bout d'un moment, ils se dégagent. Il lui dit, j'ai trop chaud. Elle est triste. Lui n'a jamais désiré une jeune fille. Il est resté enfant de ce côté-là. Peut-être est-ce aussi à cause de sa vie solitaire. La plupart du temps, son corps le laisse en paix pour ses désirs. Il est resté très enfant et malheureusement, Françoise ne peut le comprendre. Quelquefois, Adrien se met à courir dans tous les sens, à crier comme un petit sauvage. Il monte aux arbres, pousse des cris comme Tarzan. Françoise est heureuse de le voir comme ça. Elle essaie de le suivre, mais il est trop souple et rapide pour elle. Elle se dit, c'est un vrai gosse et je l'aime encore plus. Mais très vite, son excitation s'arrête, son visage se ferme, il a l'air mauvais. Françoise est triste. Lorsqu'il est comme ça, elle essaye de le prendre par la taille, de lui donner des baisers, mais il se retire comme effarouché. Elle lui demande « Pourquoi ?» Il lui dit « Je ne veux pas. Et la voiture ?» Elle lui dit « Tu ne penses qu'à ça ?» Il lui crie « Et pourquoi toujours m'interdire ce que je veux faire ?» Il a le regard mauvais, alors elle se tait. Il lui dit « Je vais aller voir la voiture. » Elle lui dit « Non, c'est trop loin et puis ça sert à rien. » Alors, il court. Il court. À la sortie du bourg, il tombe sur le cimetière. Il y a un immense trou qui est une fosse commune. Et dedans, l'on voit étendu des corps qui sont posés comme ça en vrac les uns sur les autres. On les a même jetés les uns sur les autres. La fosse n'a pas été recouverte de terre. Ils se sont arrêtés en voyant les cadavres comme terrifiés. Elle accourt à lui pour voir ce qu'il voit. Elle lui dit, « Sont les gens du bourg ? Allez, viens !» Il répond, « Non, je ne veux pas !» elle veut le prendre par le bras. Et lui se dégage et la fait tomber tellement fort qu'elle roule jusqu'à la fosse. Et dans sa chute, se cogne sur une pierre et tombe sur les corps et ne se relève pas. Lui ne cherche pas à savoir si elle est morte ou blessée, si elle a besoin de secours ou non. Il s'en va. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Jean-Pierre Jugnet et Ribos. Production, mise en scène, Jean-Pierre Jugnet.